Et à 18h, c'est l'heure du journal présenté par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Édouard Philippe conclut à Cahors la deuxième conférence des territoires du quinquennat en annonçant 5 milliards d'euros pour la revitalisation des centres-villes. Le Premier ministre espère aussi avoir décrispé les relations entre le gouvernement et les collectivités. Actuellement en tournée en France, les danseurs du spectacle Carmina Burana travaillent dans des conditions indignes, sous-payés, surmenés. Ils sont aussi mal soignés. L'inspection du travail a été saisie. C'est une enquête signée Cécile de Carvazdoué. Révélation sur l'armement de l'État islamique. Un rapport révèle que le groupe terroriste avait mis en place une véritable industrie et fabriquait à la chaîne des explosifs très puissants. Mais d'abord, cette information en provenance de Milas, dans les Pyrénées-Orientales. Une collision entre un train et un bus scolaire a fait 3 morts et plusieurs blessés graves selon un bilan provisoire. L'accident s'est produit à un passage à niveau sur l'axe Perpignan-Villefranche-de-Conflans. Le plan blanc des services de secours a été déclenché. La ministre des Transports, Elisabeth Borne, va se rendre sur place. Il est arrivé dans le Lot dès hier soir et a entraîné derrière lui une bonne partie du gouvernement. Édouard Philippe veut montrer aux élus des territoires ruraux et des villes moyennes qui se sentent délaissés que le gouvernement est à leur écoute. Le Premier ministre a d'abord parlé ce matin de la fracture numérique. Pour la réduire, il promet notamment la mise en place d'un guichet cohésion numérique doté de 100 millions d'euros. Les foyers les plus isolés devraient ainsi avoir accès à un bon haut débit Internet d'ici 2020. La conférence nationale des territoires s'est ensuite ouverte et Édouard Philippe prononce en ce moment même le discours de clôture. Alors Stéphane Robert, quelle a été la tonalité de cette journée ?
Eh bien, il a été question, vous l'avez dit, de l'accès au numérique avec un plan d'investissement sur 5 ans présenté ce matin. Il a aussi été question d'un plan de revitalisation des centres-villes pour les villes moyennes. Là, ce sont 5 milliards d'euros qui doivent être mobilisés. Mais surtout, le point sur lequel les discussions se sont cristallisées, c'est sur les 13 milliards d'euros d'économies que l'État réclame aux collectivités. Et il s'agit, a rappelé Édouard Philippe, de limiter la hausse des dépenses de fonctionnement à 1,2% contre 3 à 4% aujourd'hui.
L'effort qui est demandé aux 340 signataires et aux collectivités locales dans leur ensemble est un effort important. Je veux simplement dire que, un, je le mesure, deux, que je sais que les collectivités territoriales, la Cour des comptes le rappelle d'ailleurs régulièrement, se sont livrées à un effort de maîtrise de leurs dépenses bien supérieur à celui qui a été réalisé par l'État au cours des dernières années, mais que nous en tenons compte et que l'effort que nous allons imposer aux dépenses publiques de l'État sera supérieur à celui que nous allons demander aux collectivités territoriales. Pour les collectivités territoriales, ce sera plus 1,2. Pour l'État, ce sera plutôt plus 0,8.
Et là, sur cette question, les positions sont restées très tranchées, très marquées entre l'État et les collectivités locales. En clair, on n'a pas beaucoup avancé, quoi qu'en disent tous les ministres impliqués dans cette affaire. Un élu local expliquait même tout à l'heure « si, ça ne s'est pas trop mal passé, personne n'est parti en claquant la porte ». Et au bout du compte, il est peut-être là le point positif de cette deuxième conférence des territoires, c'est que le gouvernement d'un côté, les collectivités locales de l'autre se sont parlé, se sont écoutés. Il y a là deux logiques qui s'affrontent, celle de l'État qui exige une réduction des déficits publics, de l'autre celle des collectivités qui veulent conserver leurs compétences et les moyens de les exercer. Rendez-vous est fixé maintenant à l'année prochaine pour continuer à en discuter.
Stéphane Robert en direct de Cahors dans le Lot avec Benjamin Chauvin à la technique. Ce soir, Édouard Philippe dîne dans une auberge de jeunesse avec des acteurs économiques du Lot. Il restera demain dans le département. Depuis début novembre, le spectacle attire les foules. Carmina Burana, célèbre cantate scénique de Karl Orff, fait en ce moment le tour des zéniths de France. Il est ce soir à Bordeaux. Sur scène, nous promet le producteur, le ballet, l'orchestre et les chœurs de l'Opéra National de Russie réunis pour un événement musical et chorégraphique. Voilà qui fait rêver. Mais en y regardant de plus près, Cécile de Carvazdoué, vous êtes allée de surprise en surprise, car en coulisses, le rêve a viré au cauchemar.
Bah oui, un peu comme des poupées russes en fait. Plus vous en ouvrez, plus il y en a des surprises. Alors bien sûr, l'engouement pour ces grosses productions de ballet à la russe n'a rien de nouveau. Rien de nouveau non plus, le fait qu'elles emploient exclusivement des artistes non francophones des pays de l'Est. Rien de nouveau. Le niveau dérisoire des salaires, parfois en dessous des minima français, comme sur ce Carmina, où les danseurs sont payés 60 euros la représentation dans des salles de 10 000 places. En revanche, ce qui est nouveau, c'est que les conditions de travail de ces artistes n'étaient jamais sorties au grand jour. Il a fallu qu'une jeune danseuse russophone, mais américaine, s'en offusque.
Dès le départ, c'était n'importe quoi. Pas le temps de s'échauffer, pas de planning. On danse 10 heures par jour et le soir, on se retrouve à partager un lit à l'hôtel avec une collègue. Et puis, on n'avait pas de jour de congé et ça, c'était très dur physiquement. Je veux dire, peut-être que pour les autres, c'est habituel parce qu'ils viennent d'anciens pays soviétiques. Alors, ils ont peur de perdre leur boulot, d'être poursuivis. Et puis surtout, cet argent qu'ils gagnent, c'est presque 2 ans de salaire dans leur pays.
Cette jeune danseuse n'a pas supporté de voir des collègues se blesser au cours de la production et la production leur refusait le médecin. Elle a donc contacté la CGT qui a saisi l'inspection du travail et l'URSSAF parce que ce n'est pas la première fois qu'Aramé Productions est mise en cause.
Et c'est là une autre des surprises de ce dossier, Cécile.
Mais oui, Aramé Productions, c'est en fait l'émanation de France Concert qu'on peut encore voir d'ailleurs sur les affiches du spectacle Carmina Burana. France Concert condamnée il y a 2 ans à payer 250 000 euros à des musiciens biélorusses qu'elle n'avait pas payés sur un lac des cygnes. Après avoir liquidé la société sans s'acquitter de cette facture, France Concert s'est reconverti en Aramé Productions qui a aujourd'hui le même siège social, le même site internet et les mêmes directeurs comme Roland Séropian.
Quand France Concert a été mis en liquidation, il y a une décision du tribunal qui a été rendue comme quoi on pouvait racheter donc les actifs, dont le site internet. Et on divise ce site internet au niveau de la billetterie pour des raisons commerciales. C'est tout à fait légal.
Et c'est bien ce genre de tour de passe-passe juridique que condamne aujourd'hui le SFA-CGT. Juste avant la première, le syndicat est venu chercher à Mulhouse, en pleine nuit, la jeune danseuse qui avait parlé et une autre blessée au genou parce qu'elles se sentaient toutes les deux en danger. Alors bien sûr, le droit du travail français n'est pas respecté, dit le syndicat, mais il y a pire dans cette histoire, considère Denis Fourcret du SFA-CGT.
Pourquoi on fait venir des artistes d'ailleurs, si ce sont pour des raisons artistiques? Il n'y a aucun souci. Mais la particularité, c'est qu'aucun ne parle le français. Aucun n'est au courant de ses droits. Parce que bien évidemment, les normes sociales sont bien moindres que chez nous. Donc même en payant quelqu'un au minimum conventionnel, on fait des affaires. Et c'est du dumping social. Et puis quand on en arrive aux conditions qu'on nous a décrites, on est dans un cas de figure qui relève des droits de l'homme.
Mais alors Cécile, est-ce qu'il y a une prise de conscience possible pour que ça change?
C'est toute la question, parce que c'est vrai qu'au niveau de la justice, c'est souvent très long et souvent les artistes ont finalement le temps de rentrer chez eux avant de se voir dédommager. C'est pour ça d'ailleurs qu'une chorégraphe a voulu parler sur ce Carmina Burana, parce que ça fait 30 ans qu'elle voit ça, dit-elle, depuis qu'il n'y a plus de compagnie de danse classique. Nadezhda Loujine a enseigné à l'école du ballet de l'Opéra de Paris. Elle est connue dans le métier et c'était une amie de cette jeune américaine qui a accepté de parler pour faire un exemple, dit-elle.
Oui, déjà faire un exemple, et que les gens qui vont voir ces spectacles-là, c'est un peu comme maintenant on dit, vous voyez, pour les portables, il y a des enfants qui ont travaillé pour faire vos portables, n'achetez pas vos portables faits par des enfants. Il y a aussi ça, n'allez pas voir certaines productions, parce que les gens qui sont engagés sont traités comme des esclaves, au prétexte qu'ils sont jeunes, au prétexte qu'ils aiment ça, et au prétexte qu'ils sont isolés et qu'ils pourront rien dire.
Sauf que là encore, on a tendance à risque de prendre du temps, sauf, précise le SFA-CGT, si le gouvernement décide enfin de réformer la licence du spectacle afin qu'elle soit accordée à des structures et non, comme c'est le cas aujourd'hui, à des personnes.
Merci Cécile de Kervasdoué. On retrouve votre enquête sur le site franceculture.fr. Au procès de l'ancien secrétaire d'État Georges Tron devant les assises de Seine-Saint-Denis, la parole est aux plaignantes. Ces deux anciennes employées municipales de Draveil accusent le maire de viol et agression sexuelle. Elles mettent également en cause l'ancienne adjointe à la culture, Brigitte Cruel. Florence Turme, la Cour a entendu cet après-midi le témoignage de Virginie Etel.
C'est à la fois la question de la crédibilité et du consentement qui sont posées par cette longue audition. Audition éprouvante pour Virginie Etel, la première des deux plaignantes à venir à la barre. Tout de noir vêtu, longs cheveux blonds attachés en queue de cheval. En préambule, le président met les formes, il y aura des questions peut-être intrusives. Elles le seront effectivement et pas toujours empreintes de tact durant ces 5 heures d'interrogatoire. Avec la nécessité pour la Cour de comprendre si le viol dénoncé est effectivement caractérisé. D'une part dans sa définition juridique, une pénétration sexuelle, d'autre part par le refus manifeste de l'acte en question. Le président reprend le récit qu'elle a livré durant l'instruction, détails crus et précis. Le regard baissé, Virginie Etel retient ses larmes, s'essuie les yeux avec un mouchoir. J'étais incapable de réagir, explique-t-elle. Je me souviens être rentrée chez moi, m'être douchée, avoir pleuré. Mais y a-t-il eu des gestes de menace, de contrainte physique, insiste le magistrat. Non, j'étais paralysée, mon corps ne répondait plus. La sidération l'action et l'emprise, intervient son avocat. Ce sont deux notions parfaitement documentées et classiques dans ce genre de dossier. Reste des incohérences. Pourquoi avoir laissé s'installer cet engrenage, insiste l'avocat général, et ce mensonge parmi plusieurs autres. Virginie Etel a par exemple affirmé souffrir d'un cancer de l'utérus. Oui, dit-elle, mais c'était la seule arme possible. Je m'en suis servie, je suis désolée, mais je ne regrette pas. À partir de ce moment-là, je n'ai plus eu de problème.
Le Brexit doit une fois encore dominer le sommet européen qui s'est ouvert aujourd'hui à Bruxelles. Demain, les 27 chefs d'État et de gouvernement restants dans l'Union doivent donner leur feu vert au passage à la phase 2 des négociations. Mais aujourd'hui, il a encore été question de la première phase, la facture du divorce. La première ministre britannique, Theresa May, fragilisée par une défaite au Parlement, a voulu rassurer ses partenaires, Quentin Dickinson.
Et c'est peu dire qu'ils sont loin d'être rassurés. D'abord parce que, à peine l'accord préalable avait-il été conclu entre les 27 et Londres la semaine dernière, que le ministre britannique chargé du Brexit, David Davis, affirmait publiquement que cet accord n'avait aucune force contraignante. Devant la vague de protestations, y compris au sein de son propre parti, l'intéressé avait dû quelque peu rétropédaler, mais le mal était fait et la confiance ébranlée. Et d'autre part, vous y faisiez allusion, il y a eu hier cet incroyable camouflet infligé au gouvernement britannique par une majorité, certes courte, des députés à la Chambre des communes, qui lui ont imposé de soumettre, pour débat et vote contraignant, le texte définitif du traité de retrait avant la date du Brexit, c'est-à-dire avant le 29 mars 2019. Or, on ne peut raisonnablement exclure qu'il se trouve aux communes une addition de circonstances des élus anti-Brexit et de leurs collègues brexiteurs déçus des inévitables concessions de Madame May. Et si le rejet du traité devait l'emporter, la confusion politique et juridique serait alors immédiate et totale. Voilà pourquoi les meilleurs alliés de Theresa May s'appellent aujourd'hui Juncker, Tusk et Barnier. Car les 27 entendent à tout prix éviter la chute du gouvernement britannique, avec pour conséquence, au mieux, si l'on peut dire, l'arrivée au 10 Downing Street d'un David Davis ou d'un Boris Johnson, ou alors, au pire, la dissolution des communes et des élections législatives anticipées dont nul ne peut prévoir l'issue. Et dans les deux cas de figure, faute de temps, le Royaume-Uni tomberait de la falaise, selon l'expression en vogue ici, c'est-à-dire cesserait d'être membre de l'Union européenne le 29 mars 2019 à minuit heure de Bruxelles, sans qu'on ait pu conclure le moindre accord particulier entre Londres et les 27. L'onde de choc serait brutale pour l'ensemble du monde économique des deux côtés du détroit de Calais.
Quentin Dickinson, en direct de Bruxelles. Ce soir, les chefs d'État et de gouvernement se retrouvent pour un dîner au Conseil européen pour discuter des quotas d'accueil de réfugiés. Le partenariat entre l'Union européenne et l'Afrique n'en serait pas tout à fait un. D'après la CIMAD, qui défend les droits des migrants, les dés sont pipés. Selon le rapport du réseau euro-africain Migreurope, dont l'association fait partie, l'Union européenne impose systématiquement à ses partenaires ses objectifs en matière migratoire, Marie-Pierre Véraud.
Les politiques de coopération ont toujours été inégalitaires. Le rapport de force n'est pas en faveur de celui qui reçoit l'aide, mais ce que décrit ce rapport, c'est la multiplication des instruments de coopération en ce qui concerne l'aide au développement. Fonds européen pour le développement, fonds fiduciaire d'urgence, plan d'investissement européen, fonds européen pour le développement durable, des instruments de politique financière opaques, mais avec une logique claire pour Eva Ottavi, responsable des solidarités internationales à la CIMAD.
L'Union européenne et ses États vont en gros mettre en place un chantage contre des projets de développement et donc de l'argent pour ces projets de développement. Il faudra aux États coopérants non européens accepter de réguler les questions migratoires depuis leur territoire. Et donc c'est cette conditionnalité bien évidemment qui pose problème car elle ne répond pas à l'objectif premier de l'aide publique au développement mais uniquement à des besoins, une urgence de l'Union européenne et des États membres à contenir en amont de ses frontières les personnes en migration.
Ce ne sont pas les régions qui auraient le plus besoin de cette aide qui la reçoivent, mais celles identifiées par l'UE comme émettrices de migrants. Et ce ne sont pas les projets de développement qui sont favorisés, mais ceux qui incluent le contrôle des mouvements de population avec des effets pervers, explique Amadou Mbou de l'Association mauritanienne des droits de l'homme. Alors que les 16 pays de la CEDEAO avaient instauré depuis près de 40 ans la libre circulation entre leurs territoires, elle est aujourd'hui menacée.
Nous sommes dans un espace ouest-africain où la liberté de circulation, nous pensions que c'est quelque chose d'acquis. En plus que c'est un droit fondamental, mais c'est une pratique traditionnelle dans cette zone. Nous sommes essentiellement entre agriculteurs, éleveurs, et le droit coutumier y est pratiqué dans tous les États. On peut se retrouver en Mauritanie, avoir son champ de culture au Sénégal, être malien, avoir son champ de culture au Burkina. Et subitement, on nous dit que non, vous ne pouvez pas traverser la frontière parce qu'on lutte contre la migration irrégulière, etc., etc.
Et aujourd'hui, le Niger refoule maliens, sénégalais, burkinabés, guinéens. Les checkpoints poussent aux frontières du Burkina ou de la Côte d'Ivoire. Sans oublier les risques pointés par les Africains à voir l'Europe collaborer pour contrer l'immigration avec des régimes violant les droits humains au Soudan, en Guinée ou encore en Érythrée et mettre en péril leur lutte pour la démocratie.
Marie-Pierre Vérot, en Syrie et en Irak, l'État islamique avait mis en place une véritable industrie d'armement. Il avait des usines où étaient fabriquées des bombes, obus, mortiers. Il fabriquait à la chaîne des explosifs très puissant grâce aux produits chimiques provenant de Turquie, d'Italie ou même de France que les djihadistes avaient réussi à importer. Ce sont les principales conclusions du rapport du CAR, le Conflict Armament Research, un institut de recherche de terrain financé par l'Union européenne et le gouvernement allemand, Eric Biegala.
Oui, le premier renseignement de cette enquête du CAR, c'est d'abord que la très très grande majorité des armes récupérées par les enquêteurs proviennent bien du stock d'armement qui existait en Syrie ou en Irak avant-guerre, des fusils d'assaut de conception russe ou chinoise datant d'au moins 10 ans et qui équipaient les armées de ces pays. En revanche, la grande majorité des munitions qu'a utilisées l'État islamique, les balles, les roquettes, etc., est tout à fait récente, des munitions datant parfois de 2014 et qui ont été produites dans des usines européennes, le plus souvent en Bulgarie et en Roumanie. Les enquêteurs du CAR ont réussi à retracer le circuit de ces munitions. Il s'agit de stocks achetés aux usines européennes par des sociétés américaines et saoudiennes, des stocks qui ont ensuite été cédés aux différents groupes de la rébellion syrienne et qui ont fini entre les mains des djihadistes. Quant aux explosifs fabriqués en quantité industrielle, notamment pour mettre en œuvre son arme principale, les véhicules suicides chargés de parfois plusieurs centaines de kilos d'explosifs, l'État islamique les a fabriqués en mélangeant deux ou trois produits qu'on trouve sur le marché civil, un engrais avec une pâte d'aluminium par exemple, des produits achetés en Turquie le plus souvent, ou un autre produit agricole mélangé à un sucre particulier, le sorbitol, pour produire le combustible de leurs roquettes anti-chars. Plusieurs dizaines de tonnes de sorbitol, produits en France, dans les usines d'Amiens, ont ainsi été retrouvées en Irak. Deux intermédiaires, un Turc puis un Syrien, s'étaient chargés de passer commande et d'acheminer le chargement jusque dans les manufactures de Daesh. Les détonateurs utilisés par l'État islamique viennent d'Inde ou de République tchèque. Les circuits électroniques utilisés pour les mises à feu de leurs bombes ont été commandés à Dubaï ou dans le Kurdistan irakien. La plupart des produits chimiques ont été acquis en Turquie et certains en Jordanie. Si l'on compte les Américains et les Saoudiens qui ont acheté les munitions utilisées par Daesh, c'est une bonne partie des pays de la coalition internationale opposée à l'État islamique qui ont indirectement participé à l'effort de guerre des djihadistes.
Eric Biegala. La Commission fédérale américaine des communications devrait mettre fin ce soir à la neutralité du net. Vous savez, cette règle obligeant les fournisseurs d'accès à traiter tous les services en ligne de la même manière. Si elle est abolie, les fournisseurs pourraient décider de moduler la vitesse du débit Internet à leur guise, ce qui fait craindre à certains un Internet à deux vitesses. Internet où l'on passe aujourd'hui de plus en plus de temps pour travailler ou pour échanger des vidéos, des photos, des commentaires. C'est ainsi que Facebook a conquis en 13 ans d'existence 2 milliards d'utilisateurs. Mais depuis peu, d'anciens cadres du réseau social affirment qu'il est en train de détruire notre société, comme cet ancien vice-président qui affirmait lors d'une conférence qu'il interdisait à ses enfants d'utiliser cette merde. C'était bien sûr une citation, Lise Verbeck.
Oui, il s'appelle Shamat Palihapitiya. Il était vice-président en charge de la croissance de Facebook entre 2007 et 2011. Il a participé de l'intérieur au réseau social et dit aujourd'hui se sentir coupable.
Nous avons créé des outils qui déchirent le tissu social sur lequel est fondée notre société. Vous n'en avez pas conscience, mais vous êtes programmé. Maintenant, c'est à vous de décider à quel point vous êtes prêt à renoncer à votre indépendance intellectuelle. Nous organisons notre vie autour de cette fausse image de la perfection, parce que nous sommes récompensés par des signaux instantanés, cœurs, likes, pouces bleus. Et on leur donne de l'importance. Et on les confond avec la vérité. C'est juste mauvais.
Avant lui, d'autres anciens cadres de Facebook ont dénoncé, je cite, « l'exploitation de la vulnérabilité de l'humain et sa psychologie par Facebook ». Ils critiquent derrière cela l'économie de l'attention. Face à une offre abondante, donc économiquement dévalorisée, l'idée est de capter au maximum l'attention des consommateurs. L'objectif, par exemple, des réseaux sociaux, c'est de faire en sorte que l'on ne décolle pas les yeux de son écran. L'utilisateur est une marchandise pour le réseau social, explique Benjamin Bayard, il est cofondateur de la Quadrature du Net.
derrière les grands réseaux sociaux qui vivent de publicité, il y a les grands industriels qui veulent vous vendre. C'est pas seulement Facebook. Facebook, c'est la pointe qui est en train de vous transpercer et de vous faire du mal. Mais derrière, il y a des gens qui poussent. Tous les gens qui ont besoin d'acheter votre attention parce qu'ils veulent vous vendre, parce qu'ils veulent vous expliquer qu'une voiture, c'est plus écologique que de marcher à pied. Tous ces gens-là, ils ont besoin de vous le répéter beaucoup, le message faux, pour que vous finissiez par l'avaler.
Mais l'une des solutions serait, selon lui, de rendre Facebook payant pour quelques euros par mois pour arrêter ainsi d'être une marchandise publicitaire. Mais il reste lucide, ce n'est pas près d'arriver.
Merci Lise Verbeck et on retrouve votre article « Les repentis de Facebook » sur franceculture.fr. Pour finir, je reviens sur le bilan de la collision entre un train et un bus scolaire à Milas dans les Pyrénées-Orientales, car il s'est aggravé. Le nouveau bilan fait état de 4 enfants morts et 19 blessés, dont 7 graves. Édouard Philippe va se rendre sur place avec la ministre des Transports, Elisabeth Borne. Beaucoup de nuages demain avec de la pluie, des orages et du grésil. Le ciel sera plus clément près de la Méditerranée. Les températures iront de 0 à 9 degrés le matin, 4 à 16 l'après-midi. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.